Vous êtes à l'écoute des paysans et paysannes dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon. Mais ce soir, on va parler d'autoroute et de pourquoi s'y opposer. Et on va parler en particulier du projet d'autoroute A45, donc le doublement d'une autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, donc qu'on a déjà évoqué plusieurs fois ici. Donc pour cela, on va avoir quelqu'un avec nous au téléphone qui participe un peu à l'organisation de la marche contre la 45. Donc cette marche qui aura lieu fin juin et début juillet entre Saint-Étienne et Lyon. Voilà, on va s'écouter un petit morceau, le temps de le retrouver en direct. Et puis on parlera donc de ce projet d'A45. A tout de suite. Direct donc avec un invité, je sais pas si tu nous entends.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous pour parler donc de la 45. Donc je sais pas si déjà tu peux un peu resituer ce projet d'A45, ce que c'est, où ça se passe et puis l'opposition à ce projet qui existe déjà quand même depuis des décennies.
Ouais, alors déjà merci pour l'invitation. Donc pour me représenter, pour les gens qui ont loupé l'intro, je fais un peu partie de gens qui suivent les histoires de mobilisation contre la 45 depuis Saint-Étienne, intramuros, et notamment le projet de marche. Et cette histoire d'autoroute A45, c'est un projet qui est déjà ancien, parce qu'il paraît que ça commençait à en causer un peu dans les années 70 et tout ça. Mais partir de 93 qu'il y a eu des premiers rapports un peu officiels et sérieux pour doubler donc l'autoroute A47 actuellement entre Saint-Étienne et Lyon, l'autoroute qui passe dans le fond de la vallée du Gier. Et du coup, voilà, depuis 93, ça a fait un peu de pas en avant, un pas en arrière, c'est un peu stagné. Alors, je passe en bref parce que je suis pas un expert de ce genre de période. Moi, c'est récent que je m'y intéresse, pour être honnête. Mais depuis l'été dernier, en fait, en particulier, il y a eu le vote des budgets définitifs, enfin les prévisions budgétaires définitives, qui, depuis que Laurent Wauquiez est arrivé à la tête de la région, qui a complété ce qui manquait au financement du projet, en fait. Donc, ça fait, disons, un an que ça a pas mal avancé, pas mal bougé. Au niveau institutionnel, je veux dire, et puis au niveau voilà, public et collectivité locale, etc. Avec, en gros, détailler un petit peu, un projet à 845 millions pour les collectivités locales et partagé entre Saint-Étienne Métropole, le Conseil Général de la Loire, la région Rhône-Alpes, donc grâce à Laurent Wauquiez qui a mis ce qui manquait sur la table, une grosse enveloppe de l'État également, un budget à 1,2 milliard au total, en sachant que ça dépasse tout le temps ce genre de projet énorme. Ouais, et voilà, sinon pour les données un peu physiques, la 45 c'est 48 km en gros, mais c'est dans les montagnes, donc c'est vraiment 11 viaducs, 4 tunnels, 5 échangeurs, et c'est pour 48 km c'est un budget de taré, et c'est aussi un massacre de taré en termes d'échelle et d'infrastructure. Là. Du coup voilà, cette histoire de la dernière année écoulée avec depuis le vote des budgets, disons, il y a aussi un avis du Conseil d'État qui doit être rendu. Il y a eu différents avis de différentes commissions publiques plus inutiles les unes que les autres, là, genre l'ARAFER, etc. Bref, ça s'empile un peu. Et le Conseil d'État et le décret ministériel qui est censé le suivre, qui est très attendu par les partisans de la 45, ils tardent à être donné parce qu'ils attendent un peu la fin des élections, je pense. Il y a plein de données aussi un peu électoraliste primaire entre les élus locaux, là, députés, maires, etc., etc., et nouveaux ministres de nommer dans le gouvernement. Là. Donc je ne sais pas à quel point ça vaut le coup d'être détaillé, mais en gros, il y a le député de la Loire, c'est Bonne, et qui est plutôt partisan de la 45, le député du Rhône qui s'appelle Fenech, de la circonscription de Givors, qui est plutôt opposant à la 45, qui se tire la bourre et qui envoie des courriers depuis que Nicolas Hulot il a été nommé ministre et que Gérard Collomb a été nommé ministre parce qu'ils ont peur que le projet ne se fasse pas ou au contraire qu'ils espèrent que le projet ne puisse pas se faire. Donc voilà, c'est des trucs pas passionnants, mais c'est marrant un peu de les voir s'agiter en sachant que nous on s'en fout, on va aller marcher quand même, on va certainement pas rester prisonnier de remaniement ministériel et de choses comme ça, mais ouais, mais du coup voilà, les données de base un peu. Je sais pas si tu veux que je développe d'autres aspects ou d'autres points.
Non, peut-être je pensais juste à un point sur les délires politiciens, c'est que depuis le départ, il y a quand même un gros décalage où il y a un peu les notables, tu me coupes hein, si je me trompe, mais les notables ligériens qui soutiennent à fond ce projet, et que du côté de Lyon c'est un peu le grand vide, grand silence, et notamment le Grand Lyon et le conseil départemental du Rhône n'ont pas mis un centime dans ce projet, quoi.
Ah bah bien sûr, ouais. Du coup c'est hyper compliqué comme projet en lui-même entre les bourges, entre eux, et dans les oppositions que ça génère aussi, parce qu'il y a tout l'Ouest lyonnais friqué qui veut pas de cette autoroute, mais pour la défense de son petit patrimoine et de son cadre de vie. On va pas leur mettre des bâtons dans les roues si on est contre aussi, mais bref, c'est pas du tout le même délire quand même. Côté de la Loire, et c'est oui, tout le patronat local, ils sont pour couler du béton, pour espérer avoir plus d'infrastructures logistiques et faire couler un peu plus de fric dans la région, etc., etc., avec des paris plus hasardeux les uns que les autres. Bon, c'est probable qu'eux, aux positions stratégiques où ils sont, ils puissent en tirer les bénéfices, même si nous, à la place à laquelle nous on est, on voit pas du tout de quoi ils veulent parler. Mais bref, ça c'est classique. Mais ouais, il y a des grosses divergences qui font que, par exemple, Collomb nommé au ministère de l'Intérieur, Collomb, il a plutôt tendance à suivre son fief électoral lyonnais et de la métropole lyonnaise, etc. Et évidemment, il y a plein de gens qui sont opposés à la 45 aussi parce qu'ils ne veulent pas ça dans leur jardin, comme on dit dans le slogan, quoi. Et du coup, voilà, avec, avec dans la Loire, qui est beaucoup moins friquée, etc., etc., une position vachement plus ambiguë, que ça soit de ce qu'on appelle l'opinion publique en général, mais en particulier de la presse locale, du patronat local, etc., etc., qui sont farouchement partisans de ce projet d'autoroute, en espérant des merveilles. Ils attendent un miracle, on dirait, là.
Du coup, du côté opposition, en fait, depuis longtemps, donc là tu disais, il y a l'opposition un peu, on va dire, de l'Ouest lyonnais friqué, donc plutôt pas dans mon jardin. Et par contre, tout le long du trajet, il y a une opposition qui est existante. Je ne sais pas si tu peux en dire deux mots depuis quand même longtemps, jusqu'à la remise en route du projet là, depuis un an, mais qui s'est un peu réactivée de réseaux qui étaient existants depuis pas mal de temps, c'est ça un peu?
Ouais, bien entendu. Bien, alors, du coup, voilà, au-delà des espaces un peu députés, ministères, grosses métropoles, etc., les choses intéressantes qui sont depuis hyper longtemps sur le terrain, bah, depuis 93, depuis que le projet est un peu officiel et tout ça, c'est plein de groupes locaux sur tout le tracé ou très proche du tracé, donc qui vont morfler à cause de la réalisation de cette autoroute si elle veut le voir. Et en gros, si on voulait résumer, il y a sauvegarde des coteaux du Jarret côté Loire, sauvegarde des coteaux du Lyonnais, côté Rhône, et sauvegarde du pays du Gier, avec une coordination qui regroupe tout plein d'opposants à la 45, donc aussi des organisations écologistes, des tas de groupes divers et variés. La coordination des opposants à la 45, on en parlera quand on évoquera la marche et les mobilisations de début juillet et fin juin. Je donnerai les coordonnées et tout ça. Mais voilà, qui ont fait un énorme boulot juridique, un peu de longue haleine là, d'emmerder le déroulement juridique serein de ce projet de la 45, d'informations dans les communes du secteur, de rassemblements réguliers, etc. Et il faut être honnête, ben, moi qui suis habitant de Saint-Thé en ville, ils ont un boulot bien plus ancien, bien plus ancré. Ça a été bien précieux les quelques occasions où on a commencé à se rassembler, en fait, et à commencer à se rencontrer et à échanger un petit peu. Donc voilà, les sauvegarde des coteaux du Jarret, sauvegarde des coteaux du Lyonnais, sauvegarde du pays du Gier, c'est un peu et la coordination des opposants à la 45, c'est un peu le réseau sur le tracé, vraiment dans les communes rurales, etc., etc.
Ok. Bah peut-être, du coup, on parlera après plus de l'aspect plus global, en fait, d'aménagement du territoire et de transformation aussi, un peu de gentrification, enfin tout ce que ça peut impliquer, en fait, cette autoroute. Mais peut-être deux mots, du coup, pour resituer, toi, tu comme tu disais, t'es plutôt dans le collectif stéphanois. Du coup, les urbains à l'extrémité pauvre, on va dire, de cette autoroute.
Ouais,
De quoi ?
Au mauvais bout de l'autoroute.
Au mauvais bout de l'autoroute, voilà. Mais du coup, sur le long du tracé, peut-être, je vais réexpliquer un petit peu au niveau vraiment purement agricole. C'est ce que je disais en introduction, c'est qu'on on sera amené à en reparler directement avec des paysans et paysannes impactés en fait par ce projet et qui sont aussi du coup dans les réseaux qui luttent contre ce projet. Mais en quelques mots, quand même un peu resitué, du coup, c'est 500 hectares de terres agricoles directement impactées, quoi, directement bétonné par le projet, et ça représente 375 fermes menacées. Du coup, dit comme ça, effectivement, le nombre de fermes est assez énorme, le nombre d'hectares aussi, mais du coup, faut voir que c'est quand même vraiment plus large que ça, le problème. Parce que si le nombre de fermes est aussi élevé, c'est que justement les coteaux et monts du Lyonnais, en fait, sont des zones qui ont été... qui ont un historique agricole assez particulière et une densité agricole qui est restée très très beaucoup plus élevée que dans d'autres endroits de la région, quoi. Et avec des fermes avec une diversité de production agricole et une diversité de dimensions de fermes, en fait, avec encore beaucoup de fermes à dimension assez faible, enfin à dimension humaine, et beaucoup de ventes directes, de commercialisation locale. Donc il y a un tissu agricole qui est quand même assez particulier et qui, du coup, qui est directement impacté par ce projet. Et ce qu'on peut ajouter, qu'on a pu évoquer par rapport à d'autres projets d'autoroute ailleurs et d'autres projets de bétonnage, c'est que le nombre d'hectares directement impactés, c'est une chose, mais en fait le problème est beaucoup plus profond que ça. Parce que même si voilà, des gens qui perdent qu'un hectare sur une ferme de polyculture élevage qui peut en avoir 50, 60, 70, ça paraît strictement rien, si c'est 1, 2, 3, 4, 5 hectares. Mais en fait, ça produit quand même localement un mitage du foncier agricole avec de plus en plus de rocades, de bretelles, d'autoroutes, enfin de tout un tas d'éléments urbains en fait qui sont intraversables, et du coup ça a des impacts vraiment même agronomiques directs, quoi. C'est-à-dire quand on a des parcelles qui étaient accessibles à pied pour emmener pâturer des bêtes, et ben elles le sont plus, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben on fait plus de foin, on les nourrit plus à l'intérieur plutôt que les faire sortir. Ça entraîne aussi des heures de tracteur et tout ce que ça implique en termes de gasoil, en termes d'embrouille avec les voisins, etc. Et puis le fait qu'il y ait des terrains morcelés comme ça, et donc des petits lots, en fait, des îlots de terrains qui sont de plus en plus petits. Ça on en parlera sur l'aménagement du territoire, c'est qu'il y a l'impact indirect un peu de cette autoroute, c'est que ça entraîne forcément, enfin ça agrandit en fait le risque de déclassement de ces terres et qu'elles deviennent constructibles, et aussi ça agrandit la tentation pour les gens qui les utilisent ou qui les possèdent de faire ce qui est en leur pouvoir pour qu'aussi elles deviennent constructibles, enfin pour spéculer en gros, quoi. Parce qu'il y a forcément moins de spéculation dans des zones rurales et moins desservies qu'en bordure d'une nouvelle autoroute, quoi. Donc en fait il y a tous ces impacts là indirects sur le quotidien des fermes qui sont concernées, ce qui fait que c'est non seulement pas que les 375 fermes menacées directement par le tracé qui sont concernées, mais qu'en plus elles sont concernées pas que vraiment directement par voilà, une parcelle qui part parce qu'elle est bétonnée ou parce qu'il y a le pilier d'un pont ou des choses comme ça, quoi. Que c'est le problème, il est beaucoup plus profond que ça, quoi, en gros, pour vraiment pour l'activité agricole directement, quoi, en rappelant ce que je disais au début, quoi, que c'est une zone quand même assez particulière, avec tout un historique de paysans ouvriers aussi de la vallée du Gier, enfin avec des choses dont on pourra reparler avec les paysans et paysannes de là-bas, mais qui est une situation particulière qui peut quand même vraiment disparaître et être profondément transformée par ça, quoi. Donc je sais pas si sur cette partie plus vraiment purement agricole, toi tu vois d'autres choses que j'ai oubliées.
Ah bah, si, carrément, parce que un des aspects intéressants de ce projet de marche, une des idées de base de ce projet de marche, là, c'était de ne pas penser séparément l'espace urbain et l'espace rural. Parce que ce qui se passe à Saint-Étienne, qui est une ville toute découpée et un peu spéciale, c'est que par exemple dans les impacts tout bêtes, mais qui changent profondément les relations sociales et qui vont fracasser plein de trucs dans notre vie quotidienne, même en ville, même si on n'est pas habitant du tracé de l'autoroute et qu'on n'a pas notre activité économique en tant que paysan sur le tracé de l'autoroute. Un truc tout con, c'est qu'on a du maraîchage de bonne qualité, pas cher, parce que il y a tout un tissu paysan modeste avec des petites fermes qui approvisionne tout le maraîchage en ville à Saint-Étienne pour une population populaire qui peut se nourrir pas cher avec des bons trucs. Du coup, bah, typiquement, la 45, il va venir dévaster tout ça. Ça va créer de la concurrence foncière que les paysans n'ont pas les moyens de suivre, etc., etc. L'approvisionnement, il va être plus compliqué, les denrées vont s'enchérir, effectivement, on va se retrouver dans les schémas habituels. On achètera, si tu veux bien bouffer, t'achètes des produits bio pour les bobos à 12 fois le prix, au lieu d'avoir juste des tissus tradis régionaux de connexion facile entre la ville et la campagne. Donc des villes moyennes et modestes et des campagnes denses, comme tu le disais, et vivantes, quoi. Économiquement vivante aussi, même si elle ne donne pas des milliards comme une autoroute. Mais du coup, là, rien que sur la question de la paysannerie et de la question agricole, elle n'est pas du tout étanche du problème aussi du type de ville qu'on veut, même si ça se pose pour les habitants ruraux et les paysans, mais ça impacte directement aussi le genre de ville dont on a envie, quoi, et le genre de ville dans lequel on peut se permettre de vivre ou pas. Moi, je vois le lien, je le vois entre autres là, par exemple.
Ouais, notamment dans les réseaux d'approvisionnement, effectivement, surtout dans un cas comme Saint-Étienne qui prolonge un peu la particularité de cette région-là, quoi. Parce que Lyon, par exemple, c'est déjà plus le cas. Les réseaux d'approvisionnement que tu décris là, qui existent sur la Loire, quoi, ils sont déjà quand même vraiment très rares sur l'agglomération lyonnaise, et ça peut aussi disparaître assez vite, quoi.
Ouais, bien sûr, complètement. Et puis après, donc, bah, il est lié aussi, mais quand tu parlais du foncier et de la requalification de terres agricoles on avait souvent causé ensemble, mais d'autoroutes, de dessertes, de lotissements pavillonnaires, plus ou moins aisés, plus ou moins friqués, etc., dans un joli cadre de vie, etc., etc. À la fois, on va arracher des terres à des paysans qui en ont besoin pour produire, et à la fois, nous, ça va nous mettre en concurrence d'un point de vue foncier, locatif et dans l'usage de la ville avec des gens solvables. En gros, les classes moyennes sup éventuelles dont on fantasme qu'elles viendront s'installer sur le trajet de l'autoroute. Du coup, pareil, la dépossession des paysans, elle va être parallèle à une dépossession des habitants pauvres de Saint-Thé, quoi, des classes populaires de Saint-Thé, qui sont encore l'essentiel de la ville, quoi. Enfin, et du coup, c'est pareil, c'est la question de la bouffe, elle est directement liée. La question de du logement, par exemple, de l'habitat et des types d'habitat dans lesquels on injecte du fric et auxquels on consacre de l'espace. Alors que, par exemple, à Saint-Thé, la politique essentielle intramuros, c'est de raser et de détruire tout ce qui est vieil habitat populaire, HLM, etc., etc., quoi. Avec des agences comme l'Agence nationale de rénovation urbaine, on voit que les politiques, ils ont leurs agences spécifiques pour le rural et pour l'urbain, mais on voit que les politiques, elles sont pas toujours si éloignées et différentes, quoi.
Largement de l'impact, enfin de pourquoi s'opposer
à ce projet d'autoroute. Du coup, il y a pas mal de raisons. Là, on a commencé à aborder les questions de, d'impact un peu sur le territoire, notamment de ce mythe qui n'est pas qu'un mythe, hein, mais d'arriver de populations solvables, à la fois dans les campagnes, parce qu'on ne fait pas une autoroute de 48 km juste pour aller de Lyon à Saint-Etienne, mais aussi pour desservir toutes les parties entre et faire des nouveaux lotissements. Et puis après, l'impact directement plus en ville aussi sur Saint-Et. Donc je ne sais pas si tu peux en reparler un petit peu de ça, de l'impact aussi entre ces deux pôles-là, de Lyon qui est censé être une ville riche avec beaucoup de travail pour des cadres, et puis des coteaux ruraux et en bout de course un peu de l'agglo stéphanoise, quoi.
Ouais, bah c'est un problème, mais on sait, ouais, c'est pas un grand mystère, c'est que Saint-Et c'est une ville industrielle en pleine chute libre au niveau économique, mais il y a beaucoup plus de chômage et de sous-emploi et de galériens que dans l'agglo lyonnaise en proportion, même si l'agglo lyonnaise elle a besoin de ses galériens pour tourner, évidemment. Et la richesse, ça suppose aussi la pauvreté. Et Saint-Et, du coup, bah, elle court à, enfin, la nouvelle équipe municipale, entre autres. Bon, c'est pas une nouveauté par rapport aux anciennes, je sais pas pourquoi j'y ai la nouvelle. Mais il y a une espèce de mythe de la bourgeoisie stéphanoise à courir vers la revitalisation de la ville, comme ils disent, alors par des tas de projets urbains et des tas d'incantations économiques, comme cette fameuse autoroute qui en est un des points d'orgue, quoi. Enfin, qui est un des points les plus spectaculaires. Et pour pouvoir accéder relocaliser des activités ici, en sachant qu'à peu près à chaque fois qu'il y a une autoroute qui relie une ville moyenne et pauvre à une ville grande et riche, c'est plutôt de la satellisation et ça continue la fuite. C'est-à-dire que le pendulaire entre Saint-Et et Lyon, qu'ils soient en bagnole, qu'ils soient en train ou quoi que ce soit, étant donné qu'il n'y a pas de taf ici, eh ben, il y a des énormes mouvements de Saint-Et à toute la vallée du Gier, Londaine, etc., pour aller taffer à Lyon, entre autres pour des boulots de manard, pas mal, faut être honnête. Alors que par ailleurs, il y a pas mal de cadres lyonnais qui peuvent occuper des logements dans le secteur à terme, dans les fantasmes des élites locales, etc., dans des jolies zones rurales. Comme tu disais, qui seront bientôt desservis par une autoroute si elle arrive à se faire, ce qui n'est pas du tout dans nos plans. Et puis pour occuper des postes aussi dans le secteur. Là. Mais du coup, il y a une espèce de truc dégueulasse sur ce chantage à l'emploi et à des emplois complètement hypothétiques, de travaux souvent complètement dégradés, parce qu'en vrai, il va se produire essentiellement quoi. Si on voit tous les dominos régionaux, c'est des extensions de carrière, ça va être le chantier en lui-même, des contrats d'intérim et de sous-traitants dans les travaux publics, où moi j'y ai travaillé, le boulot dans les travaux publics en intérim, je vous fais pas un dessin, c'est pas non plus la panacée, etc. Les travaux dans les enrobés, le bitume en fait, par exemple, etc., ça tue des gens à l'appel tous les ans. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais, mais quand même, pour le genre d'emploi qu'on fait miroiter aux chômeurs et aux milieux populaires de la région, faut savoir quand même qu'est-ce qu'ils impliquent, quoi. Et voilà, et des boulots dans la logistique, donc des boulots à temps partiel contraint, des boulots de ce type. En admettons que de l'emploi et de la redynamisation soi-disant capitaliste, il y en est, elle va être de ce type-là. Et c'est pour ça que moi j'insiste sur le côté que ce chantage à l'emploi, il est dégueu. Il est vraiment dégradant et humiliant pour les gens à qui il s'adresse, quoi. Une époque où le travail, on va pas vous faire un dessin, il est de pire en pire, hein, au niveau de ses conditions, et notamment les boulots dans le type de secteur économique qui vont profiter de cette autoroute. C'est le patronat qui vont profiter, c'est pas les gens. Si on décroche quelques contrats et que le CDD pendant 2 ou 3 ans le temps du chantier, ça sera la panacée, quoi. Du coup, voilà, sur le... Je sais pas ce que...
Et peut-être simplement de rappeler qu'on retrouve derrière ce projet comme maître d'œuvre les mêmes que d'habitude, en gros.
Bien sûr. Concession à Vinci, direct. Donc un joli petit chantier de 1,2 milliard pour Vinci, parce que la partie à sa charge, en fait, elle va lui être financée par je sais plus quelle banque européenne de développement ou un truc de style. Et voilà, pour les termes du contrat avec le concessionnaire, si tu veux que je détaille en 2 secondes, c'est concession pour la construction, l'exploitation pendant 55 ans, renouvelable. Si c'est pas solvable, rachat par l'État. Rachat. C'est pas une cession, c'est un rachat pour une autoroute qui va être payante, un péage. Et donc, c'est vraiment une autoroute qui est destinée aux classes solvables et aux entreprises, quoi, pour faire voyager des camions et des cadres qui vont aller pioncer dans le périurbain. Du coup, alors que la 47, elle a certainement énormément de défauts, mais bon, elle est gratos. Et par ailleurs, elle risque d'être déqualifiée ou... Donc la 47 qui est à 5 km maximum du tracé hypothétique de la 45 là-dessus. Mais bref, voilà, Vinci, comme d'habitude, aux places les plus juteuses. Et avec ses promesses pour les gens dont les activités économiques sont bousillées par la 45, des promesses d'aller faire l'intérimaire sur les chantiers de travaux publics, quoi. Ça va être super. Ce qui est déjà, bah, quand tu parlais des liens entre ville et campagne, c'est déjà l'origine sociale des trois tiers de la vallée du Gier, de Saint-Étienne et de la région, c'est de la classe ouvrière, de l'exode rural, quoi. C'est tout, la plupart d'entre nous, nos grands-parents étaient paysans et après c'était ouvrier dans les usines du fond de vallée et ainsi de suite. Et ça va continuer ce cycle-là sans cesse, en fait, tu vois.
Oui, et puis en termes justement d'impact, tu disais c'est à 5 km du tracé de la 47, donc c'est vrai que déjà c'est vraiment doubler quelque chose qui est existant. Mais en plus, au-delà de faire des échangeurs réguliers qui vont miter les coteaux, peut-être sur l'agglo de Saint-Étienne, ça pose aussi un enjeu particulier là où arrive cette autoroute, quoi, parce qu'en gros ça va arriver au nord de Saint-Étienne. Au sud où arrive la 47, et donc dans des zones où on est tout de suite, où Saint-Étienne est tout de suite ceinturé par des zones agricoles, pareil, encore denses, du côté de l'aéroport et par là-bas. Ça aussi, ça va avoir un impact direct de ces zones-là, seront tout de suite proches de Lyon, proches de la vallée du Rhône, et donc de nouveau plus solvable et mieux vendable, quoi.
En sachant que c'est même pas certain du coup que ça résolve un quelconque problème de trafic routier entre Saint-Étienne et Lyon, parce que c'est pas les mêmes zones de l'agglo stéphanoise et de l'agglo lyonnaise qui sont desservies à chaque fois, donc ça se trouve ça va juste faire un doublon pour des populations différentes, effectivement peut-être un peu plus friquées ou quoi que ce soit, mais la baisse de fréquentation, enfin c'est un des arguments pour l'opinion publique, avec des guillemets, là, j'aime pas cette expression, mais pour les habitants du secteur, c'est d'arrêter de galérer dans les bouchons sur la 47. Et en fait, vu le type de secteur des deux agglos qui sont desservis, et le fait qu'il y ait une autoroute payante et chère, en vrai, c'est la foutaise, ça va probablement pas marcher. En admettant que ça aurait été un argument recevable, parce que je pense même pas à la base, mais bref. Mais ouais, effectivement, toute la ceinture rurale et éventuellement agricole de Saint-Étienne au nord, d'une part, elle va morfler pas mal, elle va morfler aussi le 45 qui l'a... on ne pourra pas détailler en tous les recoins maintenant, mais ça va avec tout un déplacement des infrastructures de prestige de Saint-Étienne vers le nord aussi. C'est-à-dire tout le centre et le sud, plutôt modeste et populaire, même s'il y a, bon, il y a des nuances et des exceptions, mais il y a tout un tas d'infrastructures en ce moment de la ville qui sont en train d'être déménagées vers ce nord d'agglomération, là, où va déboucher évidemment la 45 pour une meilleure desserte. C'est-à-dire que la ville, on ne peut pas la vider de ses pauvres, mais on peut déplacer la ville quasiment du point de vue de la mairie. Ça évoque peut-être pas grand-chose de gens qui sont pas stéphanois, mais toutes les infrastructures publiques, caisse primaire d'assurance maladie, caisse d'allocation familiale, tout bouge plus vers le nord et plus vers là où on espère il y aura un nouveau centre commercial, on espère avoir un pôle de compétitivité, des pôles d'excellence et compagnie. Et ça, évidemment, ça va être gourmand aussi, tant sur les quartiers populaires que sur les marges agricoles de la ville, ça c'est certain, quoi.